Chapitre 19. Sylvain, interdit, regardait Belloc s'éloigner. Comment, il s'en allait? Et quand il avait les choses les plus graves à lui dire? Son premier mouvement avait été de courir après lui pour lui barrer le passage. Mais il n'était que trop certain que Simon ne se laisserait pas arrêter. Et d'ailleurs, dans l'état où ils étaient, il n'était que trop certain aussi qu'ils pouvaient se jeter l'un sur l'autre. Célanie avait raison, Simon était devenu un monstre et c'était seulement par l'entremise des huissiers qu'on pourrait s'entretenir avec lui. Il avait voulu ce procès, à lui seul, la responsabilité de ce qui allait advenir. Et Sylvain s'en était revenu à Criquefleur, presque aussi furieux contre lui que contre Belloc. Comment avait-il eu la folie de compter sur cet entretien? C'étaient ses sentiments d'autrefois qu'il avait abusés. Mais Simon n'était plus maintenant l'homme d'autrefois. Depuis longtemps, il aurait dû le savoir. Qu'attendre de celui qui avait été assez misérable pour violenter cette malheureuse enfant? Ses accusations contre Célanie ne dépassaient-elles pas tout ce qu'on pouvait imaginer? En tout cas, elles avaient produit en lui des mouvements d'indignation qui avaient étouffé toute pitié. C'était par méchanceté qu'il avait lancé des injures, attaquant pour n'avoir pas à se défendre. Eh bien, puisqu'il voulait la guerre, ce serait la guerre. Il n'y avait plus de ménagements à garder. En rentrant, il dirait à sa femme qu'il se rendait à ses raisons. Seulement, il n'avouerait pas une entrevue avec Simon, cela était inutile. Mais Célanie connaissait trop bien son mari pour que celui-ci pût lui cacher quelque chose. Lorsqu'elle le vit rentrer, elle fut frappée de son agitation et aussi de son embarras. « Qu'as-tu ? » lui demanda-t-elle. « Rien. Ce n'est pas vrai. Quand tu n'as rien, tu n'es pas troublée et agitée ainsi. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit à propos du procès à faire pour Marichette et, décidément, je crois que nous devons le commencer. Enfin ! Tu verras cela. Tu consulteras sous pardon. » C'était un sujet si pénible pour lui qu'il avait hâte d'en être débarrassé. Mais sa femme ne les laissa pas tranquilles. Pendant qu'il parlait, elle n'avait cessé de l'examiner. Était-il possible que la réflexion seule lui eût donné cette respiration pressée? « D'où viens-tu ? » lui demanda-t-elle. « J'ai fait ma tournée. »« Qu'est-ce qui va mal ?»« Rien. »« Par où as-tu fini ?»« Par la tour. »« Tu as vu Belloc ? » s'écria-t-elle. « Eh bien, oui. Pourquoi ne le disais-tu pas ? Pourquoi parler de lui ? Que s'est-il passé ? » Sylvain était incapable de ne pas répondre franchement quand sa femme l'interrogeait. Il dit donc la proposition qu'il avait adressée à son cousin et la réponse que celui-ci lui avait faite. Mais il ne parla pas des attaques et des injures qui l'avaient exaspéré. « Tu vois quel homme il est ? » s'écria Célanie d'un air de triomphe. « Tu avais raison, pardonne-moi. Je suis trop bonne. C'est vrai. » Ce n'était point l'habitude de Célanie d'abuser de la victoire, et quand elle se voyait près d'atteindre le but qu'elle avait le plus ardemment poursuivi, il fallait bien souvent la pousser pour lui faire monter la dernière marche qui lui restait à gravir. « Pourquoi ne verrais-tu pas toi-même sous pardon ? » dit-elle. « Non, il vaut mieux que ce soit toi. C'est chose si grave que ce procès. Justement, il s'agit de ta parente. » N'est-elle pas une fille pour toi ? Quand ? Tu voudrais que ce fût tout de suite ? Franchement, oui. J'y vais. Si Célanie n'avait pas parlé à Soupardin de ce procès, depuis la visite qu'elle lui avait faite quand elle voulait envoyer Belloc au bagne, par contre, Soupardin était venu plus d'une fois la voir pour lui demander si elle ne se décidait pas à engager la négociation qu'il lui avait conseillée. Aussi, lorsqu'il la vit entrer dans son bureau, crut-il qu'elle venait réclamer le concours de la personne prudente qui, seule, pouvait mener à bien cette fameuse négociation. Quand il entendit parler de procès, il se précipita dans son portefeuille, dont il ouvrit toutes les poches les unes après les autres. « Je croyais vous avoir expliqué, interrompit-il, qu'un procès contre le maire de S.M. » Il baissa la voix. Était une grosse partie à jouer, vu l'influence du personnage sus-indiqué. « La jeune fille est enceinte. »« Vraiment ? Mais Soupardin n'avait pas lâché cette exclamation maladroite qu'il voulut la corriger. « Calamiteux incident, » dit-il avec componction. « Qui nous oblige à agir, vous le voyez. Il me semble que, dans ces circonstances, c'est la négociation dont je vous ai dit un mot qui s'impose. Elle a été tentée, elle n'a pas réussi. A-t-elle été présentée avec prudence et habileté ? Je n'en sais rien, je ne l'avais pas conseillée, mais elle l'a été, et comme elle a échoué, nous ne pouvons pas la recommencer, nous arrivons donc forcément au procès. Quel procès ? Criminel ? Civil ? Celui que vous voudrez, peu nous importe, pourvu que ce soit un bon procès. » De peur que Soupardin ne comprît pas ses paroles, elle jugea prudent de les expliquer. « Ce que nous voulons, c'est prendre la défense de cette pauvre fille et de l'enfant qui va naître, de façon à ce que ni l'un ni l'autre puissent nous accuser plus tard de ne pas les avoir défendus et de n'avoir pas fait notre devoir. Il nous faut donc un procès, quel qu'il soit, quand même nous devrions le perdre. Sans doute, je vous explique cela mal, je connais si peu les affaires. » Célani, qui se cachait soigneusement pour lire le code, affichait la prétention de ne rien connaître aux affaires, ce qui lui permettait de ne rien répondre aux propositions d'arrangement qu'on lui adressait. « Je réfléchirai, je consulterai. Vous savez que je n'entends rien aux affaires. » « Je vous ai expliqué, » répondit Soupardin, qui savait à quoi s'en tenir sur cette prétendue ignorance de sa cliente, « je vous ai expliqué en quoi le procès criminel était difficile, pour ne pas dire impossible. Il nous reste donc le procès civil. Mais comme l'article 340 interdit la recherche de la paternité, vous comprenez que nous ne pouvons avoir pour but d'obliger le maire de S.M. à reconnaître l'enfant de la jeune personne susindiquée. » Assurément, elle comprenait cela, et si la reconnaissance avait dû résulter de ce procès, elle se serait bien gardée de l'engager. « Est-il absolument certain que cette reconnaissance est impossible ? » demanda-t-elle. « Absolument, la loi est formelle. » « Alors, que pouvons-nous demander ? » ?»« Si peu au courant que vous soyez des affaires, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler d'un article du Code qui dit « Que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Eh bien, il est évident que dans l'espèce, nous pouvons dire, sous le manteau de la cheminée, il courba la tête pour la fourrer sous ce manteau protecteur, nous pouvons dire que le maire de S.M. tombe en plein sous le coup de cet article. En effet, il y a eu par son fait dommage causé, en même temps qu'il y a eu de sa part abus d'autorité, violence, etc. Nous nous trouvons donc dans cette circonstance heureuse, particulièrement heureuse, notez-le, qui nous permet, malgré la prohibition de la recherche de la paternité, d'invoquer un quasi-délit à la charge du maire de S.M. et de réclamer contre lui des dommages-intérêts, puisque la grossesse de la jeune personne susindiquée résulte de relations ayant eu le caractère d'une séduction accomplie à l'aide de moyens coupables. Et quels peuvent être ces dommages-intérêts ? Demanda Célani, ému à la pensée que la fortune du corsaire, ou plutôt sa succession, pouvait être appauvrie par le chiffre de ses dommages-intérêts. « Que vous dirais-je, chère madame ? Au commencement de ma carrière, je vous aurais répondu qu'il ne fallait pas faire grand fond sur ce procès. Mais depuis le temps, les idées ont marché. Il s'est établi une sorte d'opinion publique sur la recherche de la paternité, avec laquelle la magistrature croit devoir compter sans admettre cette recherche, bien entendu, mais en lui donnant, jusqu'à un certain point, satisfaction par une allocation d'argent à la mère. D'autre part, il s'est établi un grand relâchement dans les principes. Autrefois, on jugeait en droit. Maintenant, on juge, autant que possible, en équité. Avec le droit, on connaissait à l'avance son affaire, un avocat qui prenait votre cause à cœur pouvait vous faire gagner un mauvais procès. Mais avec l'équité, on peut très bien en perdre un bon. L'équité de qui ? L'équité de quoi ? Je vous demande un peu si l'équité de votre tribunal est mon équité à moi. Nous avons chacun notre équité qui dépend du point de vue auquel nous nous plaçons. » Cela rassura Célani. L'équité appliquée au maire de S.M., ne pouvait pas être la même, croyait-elle, que celle appliquée à un pauvre diable. L'héritage du corsaire ne serait pas trop fortement écorné. « Faites le nécessaire, » dit-elle.